Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur, le débrief de ce Lille OGC Nice. Le point a été ramené du côté du stade Pierre-Mauroy 0-0 entre Lille et le Gym. Le LOSC qui est resté sur 4 victoires consécutives en pleine lutte pour le top 3 a eu ses occasions mais a buté sur un Gym courageux, valeureux et au très bon état d'esprit. Un point qui s'est avéré crucial puisqu'Auxerre a concédé ou est allé en tout cas prendre ce point du match nul du côté du stade Louis II à Monaco. Résultat, toujours statu quo, toujours 4 points séparent les bourguignons barragistes de l'OGC Nice à 4 journées de la fin. Pour nous en parler ce soir dans Cop Aiglon, l'un des boulotables, Nico Nainho, qui est avec nous ce soir, supporter du Gym. Bonsoir mon cher Nicolas.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Émission historique, hein, pas de but, pas de défaite, donc on a encore plus le sourire ce soir.
C'est vrai, mais il y a un petit couac ce week-end, c'est semi-marathon, vous avez dû annuler.
C'était avec beaucoup de tristesse.
C'était un déchirement quand même.
Mais c'était, je pense, préférable pour moi et aussi pour les spectateurs, je pense.
Absolument. On est en très bonne compagnie ce soir, puisqu'il y a également avec nous Luc Entwistle, journaliste Get French Football News pour les anglophones qui veulent tout savoir de la Ligue 1 dans le monde entier. Salut Luc.
Salut, ça va? Ça fait un moment que je suis pas là. Je pense que la dernière fois, on se plaignait d'être en ventre mu et là, on est relégable. Donc, beaucoup a changé depuis.
Pas encore relégable, mais...
Pas encore, mais presque. On est dans la lutte.
Mais c'est pas mal, c'est un bon point en tout cas, ramener de Lille. On va en parler juste après avec vous, mon cher Luc. Et puis Arthur Franc, journaliste actu.fr, qui est de nouveau ici sur ce plateau dans Cop Aiglon. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Mais ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez en intro, je cherchais Nico, moi, dans le rétro hier sur le 10 km. Et puis, j'avais pas l'info qu'il avait fait une insolation. Bon, je pouvais pas en rajouter plus.
Mais... Alors, vous avez un... Comment on peut appeler ça un suite de Como, c'est pas précise, Strasbourg évidemment. Voilà, on reste quand même
la résultance d'une petite semaine à Como avec un match Como Inter, 4-3, 7 buts. Donc voilà,
vous êtes régalé.
Le petit souvenir rapporté en fait.
Absolument. Au sommaire de cette émission, on va débriefer évidemment ce match nul 0-0 du côté du stade Pierre-Mauroy. C'est en première partie de Cop Aiglon. La deuxième, elle est consacrée d'une part au top flop de cette rencontre et puis au focus, vous en avez l'habitude. Spécial Coupe de France, bien évidemment. J-2 au déplacement à Strasbourg en demi-finale. L'OGC Nice n'est qu'à un match du Stade de France qu'il retrouverait 4 ans après l'avoir quitté, tête basse face à Nantes, on s'en souvient tous ici autour de ce plateau. Mais avant, il faudra passer l'obstacle alsacien. Le Racing victorieux du Gym il y a 2 semaines, 3-1, qualifié en demi-finale de Conférence League après un sévère 4-0 infligé à Mayence, 8e de Ligue 1. Messieurs, y a-t-il un coup à jouer pour l'OGC Nice ou le Racing vous semble bien trop supérieur sur cette 3e confrontation de la saison? Élément de réponse avec vous en plateau pour ce 33e épisode de la 5e saison de Cop Aiglon. C'est parti. Et nous on va prendre la direction tranquillement du stade Pierre-Mauroy pour voir ce qui s'est passé entre Lille et Nice samedi soir. Les images de cette 30e journée de championnat. La première occasion est nordiste avec cette frappe de Romain Perrault détournée. De quelle manière par Yevan Diouf? La réponse du Gym ne se fait pas attendre. Elia Way passe devant Issa Mandi et trouve Berkhauser. Stupeur à Pierre-Mauroy. Le Gym prend l'avantage jusqu'au contrôle de la VAR qui annule le 1-0 pour un hors-jeu au millimètre près. La deuxième mi-temps est lilloise et sur ce centre de Thomas Meunier, vous l'avez vu précédemment, Chancel Mbemba trouve le poteau de Yevan Diouf. Les hommes de Bruno Genesio poussent et pensent obtenir un pénalty sur le contact entre Antoine Mendy et Romain Perrault. Décision là aussi revue et corrigée par la VAR après consultation de l'assistante vidéo par Monsieur De Chépy. On en restera là malgré les 7 longues minutes de temps additionnel. Match nul entre les deux équipes, 0-0. Le Gym qui conserve 4 points d'avance sur la Géosserre 16e et barragiste. Messieurs, ça nous avait manqué, on va faire un petit point arbitrage, comme pratiquement chaque semaine. D'abord le but hors-jeu d'Eli Wahi, signalé par la VAR pour un demi-bras. On va avoir l'image, voilà le révélateur. Certains parlent aussi d'une épaule, mais enfin, en tout cas il n'est pas évident ce pénalty. Est-ce que c'est scandaleux quand même ce rappel de l'arbitrage vidéo, Nico? On rappelle que le bras n'est pas une partie du corps qui peut faire action de jeu quand même.
Scandaleux, non, malheureusement c'est la règle encore une fois je crois, on applique bêtement le règlement.
Est-ce que c'est pas un excès de zèle ces pénaltys? Est-ce que vraiment à la VAR on devait rappeler Monsieur De Chépy pour ce genre d'actions qui sont quand même au millimètre? Là on parle vraiment d'un millimètre près, alors on joue à l'équerre.
C'est surtout qu'il y a une nuance, parce qu'à quel moment on estime que le ballon part du pied du passeur? Enfin, il n'y a pas de vérité exacte je pense sur ce genre de situation. Donc je pense qu'il faudrait revoir le règlement aussi et laisser une petite marge aussi aux attaquants, surtout quand c'est le bras. Donc
Oui, ce qui est compliqué quand même, c'est qu'il y a toujours une ligne. Je sais qu'ils ont changé le règle très récemment au Canada où le règle il a bien changé et c'est en faveur de l'attaquant. Mais quand même,
c'est le corps entier au Canada.
Corps entier.
C'est instauré par Arsène Wenger.
Exactement. Et il y avait le premier but avec ce nouveau règle. C'était marqué hier, je pense, si je ne me trompe pas. Donc ça change au Canada, mais il y a toujours une ligne et c'est pas trop subjectif non plus. C'est plutôt factuel, même s'il y a des petites nuances. Mais pour moi, la décision, elle est bonne, mais même si ça manque un peu de sens, à mon avis.
Autre situation litigieuse, mais en la défaveur de Lille, cette fois à la 68e, le double contact dans la surface. D'abord celui entre Djoumaba et Benjamin André, puis le duel Antoine Mendy-Romain Perrault. Monsieur de Chépy avait sifflé pénalty, puis a été une nouvelle fois déjugé par la VAR. Arthur, y avait-il pénalty dans les deux cas? Dans un seul cas, dans un seul contact, ou bien pas du tout?
Non, je pense pas, ça aurait été sévère pour moi. Je pense que du coup, sur ce coup-là, la VAR a bien fait. Romain Perrault se laisse un peu, pour moi, se laisse tomber trop facilement. Ça reste un sport de contact quand même, on va pas siffler à chaque fois. Et pareil, après, les Lillois peuvent considérer que l'intervention de Djoumaba est peut-être un petit peu virulente, mais pour moi, c'est dans le contact, il touche aussi le ballon, donc il n'y a pas de scandale là-dessus.
Pas de pénalty sur les deux situations, Nico?
Non, je pense pas. Je pense que c'est bien défendu dans les deux cas. Et puis, combien de fois on a été victime de la VAR, donc là on va pas se plaindre. Je trouve que globalement l'arbitrage n'a pas été si mauvais que ça samedi soir.
On va refermer cette page arbitrage. On va revenir sur ce déplacement à Lille où on ne s'attendait pas à grand chose, Nico, mais on a discuté avant l'émission. Le gym au courage, même sans briller, a ramené ce point ô combien important en vue de la course au maintien.
Bah, dans les têtes déjà, je pense que c'est archi important de sortir de là-bas avec un clean sheet. Combien de fois ce genre de match on les a perdus sur des détails, sur des erreurs de concentration, d'inattention. Là on est resté, je trouve, cohérent et solide de la première à la dernière minute. On a même eu quelques coups très intéressants à jouer où il nous a manqué de la confiance et un peu plus d'audace, je dirais, dans le dernier geste. Donc voilà, maintenant on sait qu'on est capable de replonger aussi très facilement, donc il va falloir s'appuyer là-dessus, conserver, je pense, encore une fois, cette ossature. Il y a eu beaucoup de satisfaction, l'état d'esprit. Il y a eu un grand gardien aussi, une défense très solide et un double pivot extrêmement surprenant. Donc ça fait quand même beaucoup de satisfaction à la suite de ce match.
Il y en a un qui était particulièrement fier de ses troupes, en tout cas c'est Claude Puel qui s'est exprimé en conférence de presse d'après match. Écoutez.
C'est un bon match, donc c'est un bon point. Après, il ne manquait pas grand chose sur le but qu'on a pu marquer. C'est vrai qu'ils ont eu quelques situations, mais on a fait de bonnes choses sur ce match avec beaucoup de structure, discipline, abnégation. On a eu un petit peu de déchets sur des ballons qu'on peut mieux exploiter par la suite, mais globalement c'est intéressant. Oui.
Vous êtes d'accord, un bon match du gym samedi, Arthur?
Ouais, les dernières semaines, on avait tendance à vouloir tout jeter. On pouvait tout jeter sur les prestations du gym. Là, cette fois, il y a beaucoup de choses intéressantes. Notamment, voilà, une prestation cohérente de toutes les lignes, et notamment défensivement. On pourra en parler dans les top et flop, mais la ligne défensive, pour moi, a été cohérente et solide avec Ivan Diouf. Et il y a une base sur laquelle s'appuyer pour les prochains matchs qui vont être déterminants. Là, on a vu les ingrédients d'une équipe qui lutte pour sa survie et qui... Les ingrédients qui doivent être mis par une équipe comme le gym actuellement. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Maintenant, il y aura le match de coupe entre eux qui va peut-être venir rebattre les cartes, pardon, mais plutôt un très bon point, je pense, d'autant que Auxerre a aussi pris un point à Monaco.
On se demandait, Luc, sur ce match, quand l'OGC Nice allait craquer, notamment avec les 7 minutes de temps additionnel. Finalement, il n'y a pas eu craquage et... Il y a eu une assez bonne gestion de la pression lilloise. C'est un bon signal aussi au niveau du caractère, de l'état d'esprit qui était un petit peu peut-être défaillant ces dernières semaines.
Oui, on en a beaucoup parlé. Maurice Cohen, il a aussi en parlé beaucoup ces dernières semaines. Donc ça, c'est le point positif. Il y en a plusieurs. Je pense que c'est une équipe qui commence peu à peu à comprendre ses limites parce que c'est un effectif limité. Ils savent rester un peu plus en bloc bas, un peu plus compact. Peut-être ne pas avoir l'audace de faire le jeu comme ils ont pu faire dans le passé, parce que c'était un effectif qui était capable de faire, mais qui aujourd'hui n'a pas la capacité de concurrencer les grandes équipes comme Lille dans le jeu. Mais ils savent quand même défendre, ils ont montré avec un bon état d'esprit, donc ça fait partie des points positifs de ce match-là.
Vous les revoyez reproduire ce même type de performance contre l'Olympique de Marseille, contre Lens? Ils en sont capables, selon vous, d'enchaîner comme ça les performances assez solides défensivement notamment?
Oui, j'y crois. Je pense que tu joues comme ça contre les gros, parce que tu peux pas faire jeu égal. Et puis les derniers matchs contre Auxerre, contre Metz, tu essaies de faire jeu égal, tu tentes un peu plus, être un peu plus osé dans le jeu, mais jusqu'à là je pense que on va voir quand même pas mal de pression plutôt défensive, et c'est pas une mauvaise chose non plus.
Si on regarde le verre à moitié vide, Nico, on peut dire aussi que l'OGC Nice n'a eu qu'une seule vraie occasion matérialisée par le hors-jeu d'Eli Wahi. Mais sinon, devant, à part peut-être quelques fulgurances de Kyle Boudage sur les toutes dernières minutes de la rencontre, c'est pas évidemment
pour
vous déplaire, mais c'est vrai qu'offensivement, ça aurait été un attaque-défense pendant de grands moments de la partie. En tout
cas. Mais c'est dommage parce que du coup, quand on est costaud défensivement comme ça, ça libère forcément beaucoup d'espace en transition. Et on a eu plein de situations qui n'ont pas abouti sur des situations franches parce qu'on a manqué de justesse, parce qu'on a manqué de tranchant. Et c'est aussi à des joueurs comme Sofiane Diop, comme Mohamed Ali Chow, qui doivent incarner un petit peu ce rôle de leader offensivement, de se mettre au niveau, d'augmenter le curseur d'exigence vis-à-vis déjà d'eux-mêmes, parce que y a pas mal de munitions, je trouve, qui ont été gâchées. Et au final, on n'en parle pas parce que ça n'a pas abouti sur des expected goals pour parler de ce qui se fait en ce moment. Mais en tout cas, dans les schémas de transition, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc il faut s'appuyer là-dessus.
Expected goal, sa prononciation est bonne.
Très bonne.
En tout cas, on peut demander d'ailleurs aussi à Stéphanie Mossman en régie, évidemment, côté britannique. On va s'intéresser à la composition de l'OGC Nice, puisque le gym était privé d'Hicham Boudaoui et de Morgan Sanson, tous les deux suspendus, mais aussi de Charles Van Hout, Youssouf Ndayishimi et Dante en soins ou blessés. En plus, évidemment, de Moïse Mbito et de Mohamed Abdelmonem, Claude Puel qui a dû faire quelques ajustements dans son 11 de départ en 3-5-2. Djoumaba trouver une place de titulaire en défense centrale tandis que Melvin Barr reprenait son couloir droit après l'avoir laissé la semaine dernière à Ali Abdi au milieu. Bricolage total de rigueur avec le retour de Salis Abdoul Samed et de Tanguy Ndombele. Sofiane Diop redescendait d'un cran pour laisser les clés de l'attaque à Mohamed Ali Chow et Eli Wahi. Évidemment, messieurs, le scepticisme était omniprésent, surtout vu l'entrejeu de son lance de départ. Et vous êtes constaté que la paire Salis Abdoul Samed Tanguy Ndombele, eh bien, ont répondu présent. Confirmation avec Claude Puel en conférence de presse après match. On l'écoute.
Les deux se sont relancés. Salis est très sérieux à l'entraînement depuis pas mal de temps. Il retrouve un certain niveau, comme on l'a vu aujourd'hui. Et puis Tanguy, c'est un joueur de ballon. Et ils ont fait un bon duo avec un bon équilibre. Et Tanguy fait énormément d'efforts à l'entraînement également pour revenir à un bon niveau.
Ils ont été revanchards sur ce coup-là, les deux qui ont été plutôt bons.
Ouais, parce que franchement, faut avouer que quand on a vu les choix de Claude Puel, on s'est dit, mais...
Qu'est-ce qu'il fait?
Ça va être compliqué. Alors, il n'avait pas beaucoup de solutions à disposition, mais sincèrement, gros match, notamment dans l'envie. On a vu Tanguy Ndombele dans un registre assez inhabituel pour lui, très travailleur. Et puis, on voit quand même, chaque fois qu'il a le ballon, il ne le perd jamais, quasiment, parce que techniquement, même à 15%, il est au-dessus de tout ce qui se fait à son poste. Et on est obligé de parler de gâchis, parce que quand on le voit comme ça, on se demande comment il ne peut pas être tout le temps encore mieux que ça. Mais en tout cas, si on peut s'appuyer sur ces deux joueurs à ce niveau-là jusqu'à la fin de saison...
Ils pourraient remonter dans la hiérarchie, les deux, quand on voit les performances en Dancy, de Charles Van Hout, d'Hicham Boudaoui, ça pourrait être des options valides aussi.
Peut-être aussi bousculer les titulaires et instaurer une concurrence un peu plus importante dans l'effectif. Et ça peut aussi tirer le groupe vers le haut.
T'as Ndombele qui arrive en fin de contrat. Je pense que là, je pense que tous les deux, je pense qu'Abdou Samé, je pense qu'Ndombele aussi, tous les deux, ils jouent pour le carrière, un peu parce que je sais que son contrat, celui d'Abdou Samé, ça dure un peu plus longtemps. Mais donné qu'il n'a pas trop joué, donné qu'il n'y a plus Francaise qui est au club, on peut aussi poser la question cet été. Pareil pour Ndombele qui arrive en fin de contrat. Je pense que c'est juste que tous les deux, ils jouent pour le carrière. Et ça aide, je pense que dans le pressage, mais à voir au-delà de cette saison, mais je pense qu'ils peuvent gratter encore des minutes d'ici fin de saison, ça c'est sûr, parce que ce serait le mérite de par la pressage qu'ils ont eu.
Autre choix qui a interpellé, on le disait juste avant Arthur, c'est Kyle Boudash qui est rentré dans les arrêts de jeu. Sur les quelques touches de balles qu'il a pu montrer, ouais, bah, il a été plus dangereux finalement du gym en seconde période, ce qui est quand même... on attendait peut-être ce changement avant.
Ah, je sais que Nico est un très, très grand fan et qu'il va sûrement rebondir là-dessus, mais oui, il se passe toujours quelque chose. Et c'est vrai que ce genre de joueur-là, on a envie de les voir au départ d'un match. Après, est-ce que c'est un quel boudage qu'on peut mettre dans une opération maintien en titulaire? Je ne sais pas. C'est une question qu'il faut se poser aussi. Parce
Nico
que,
dit
voilà,
oui, hein.
Nico va dire oui, peut-être. Mais après, et c'est aussi le dilemme de coach, c'est les choix de Claude Puel. Évidemment que par sa qualité technique et les différences qu'il peut faire en fin de match, on aimerait le voir titulaire, mais après on sait très bien qu'un joueur qui rentre n'est pas peut-être aussi percutant. Il profite aussi peut-être d'une défense fatiguée en face, ce qui n'est pas le cas en début de match, donc il y a différentes configurations à avoir en tête là-dessus.
On continuera d'évoquer les performances individuelles dans les top-lops, et avant ça on va faire un point calendrier, d'abord avec celui de l'OGC Nice. Vous allez voir, les Aiglons qui vont d'abord se rendre au Vélodrome pour ensuite recevoir Lens et terminer avec Auxerre à la Baie des Champs et Metz à domicile. Ça c'est le calendrier de l'OGC Nice. Il y aura également la Coupe de France mercredi, évidemment, comme vous le savez, mercredi soir. On va voir aussi le calendrier d'Auxerre tout de suite après. Auxerre qui ira à Lyon. Déplacement pas facile, hein, samedi qui arrive. Et puis enchaînera avec Angers et Nice à domicile, puis Lille à l'extérieur. Et puis autre équipe embourbée dans la lutte pour le maintien, ce sont les Havrais qui n'ont pris que 3 points contre Auxerre, Nice et Angers. Au programme pour les Normands, Metz à domicile, Lille à l'extérieur, Marseille au stade Océane, et puis dernière journée au Moustoir contre Lorient, qui on l'a vu peut poser des problèmes même en vacances. Quand on voit les 3 calendriers, messieurs, Arthur, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez toujours l'avantage? Vous voyez toujours l'avantage à Nice et Le Havre au classement?
Le championnat est tellement illisible que moi je n'aurais aucun avantage, que ce soit en haut du tableau ou en bas du tableau. C'est un peu plus lisible en bas, mais quoique, même si on peut dire que Nantes et Metz sont relégués, moi je suis pas plus inquiet que ça, hein, parce que Auxerre, pour moi, je les vois pas forcément gagner à Lyon.
Ils font beaucoup de matchs nuls en ce moment.
Ouais, puis je les vois pas gagner à Lyon, je les vois pas gagner à Lille dernière journée non plus. Alors peut-être un nul éventuellement, s'ils ont quand même des valeurs combatives et de solidarité. Mais il faudra quand même rattraper. Évidemment, si Nice perd contre Auxerre, là, la donne changera. Mais moi, je vois aussi, pourquoi pas, Nice faire au moins un résultat, un point, voire une victoire au Vélodrome, étant donné la dynamique de l'OM qui est en totale perdition.
Affaire à suivre, en tout cas. Restez bien avec nous pour la deuxième partie de Côte d'Aiglon, tout de suite sur BFM Nice Côte d'Azur. Les top flops et le focus vous attend.
Ce site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On se trouve dans le quartier des musiciens à Nice, un lieu construit au début du XXe siècle que l'on reconnaît grâce à son architecture art déco.
Mais Tom, pourquoi l'appelle-t-on le quartier des musiciens ?
Eh bien, car on peut y voir des clés de sol affichées sur les balcons, ou encore les rues portent le nom de grands compositeurs comme Beethoven ou Mozart.
Mais ils ne sont pas niçois, ceux-là.
Alors non, pas ceux-là, mais certains comme Verdi, Paganini, Gounod ou encore Berlioz ont vécu sur la Côte d'Azur, voire même dans ce quartier à Nice.
Mais Tom, si tu es d'accord, je t'amène visiter un appartement dans ce célèbre quartier des musiciens.
C'est parti, musique!
On arrive sur une très belle entrée, un très beau séjour. L'appartement a été entièrement rénové, une surface de 70 mètres carrés, une cuisine américaine équipée, des prestations de grande qualité, 2 chambres, salle de bain, WC indépendant, buanderie. L'appartement est climatisé, il bénéficie vraiment de très belles prestations haut de gamme.
Et si vous voulez découvrir d'autres appartements dans ce beau quartier des musiciens, je vous invite à vous abonner sur Ceinturier 21, la fâche en action.
Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour découvrir les plus beaux endroits de la Côte d'Azur.
Merci, à bientôt.
Retour sur le bateau de Côte d'Aiglon pour analyser ce match nul 0-0 de l'OGC Nice en terre lilloise. Tout de suite, les prestations individuelles dans les top flops. C'est parti. Et j'ai envie de changer ce soir. On va commencer par Luc. Et c'est top flop. D'un côté, Yéva Diouf en top. Et puis, Sofiane Diop en flop ce soir, mon cher Luc.
Oui, avec Diop, il aurait pu mieux utiliser quelques ballons en transition. On en a déjà parlé. Et puis, pour Diouf, les parades, surtout en première période, je trouve celui sur la frappe de Romain Perrault. Mm-hmm. Et le deuxième, je pense que c'est Haraldsson en première période aussi. Je trouve que tous les deux sont impressionnants. Je pense que s'il encaisse l'un de ces buts-là, c'est un match qui finit 2-3-0 pour Lille. Et on parle d'une crise qui devient encore pire. Donc, je pense que c'est Diouf en première période qui sauve le match, qui fait que ça reste à 4 points au CER avec 4 matchs qui arrivent.
Nico, Antoine Mendy en top et puis Mohamed Ali Chou qui a grillé un autre joker samedi soir.
J'ai failli mettre Jonathan Clauss en top parce qu'il a gagné 100% de ses duels, mais je l'ai trouvé un peu plus brouillon offensivement. Et Antoine Mendy, comme à son habitude, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté dans les duels. Je l'ai trouvé très très bon.
Aussi, hein.
Du leadership, ouais, et on sent qu'il est en train de prendre vraiment de l'importance dans ce groupe. Il tire tout le monde vers le haut aussi. Il est très solide. Des fois, il fait un peu peur aussi. On a l'impression qu'il va arracher tout sur son passage. Mais il est très bon depuis quelques semaines et on peut s'appuyer sur lui. Et Mohamed Ali Chou, parce que quand on a autant de talent, on ne peut pas proposer des performances aussi insipides que sont les siennes depuis plusieurs semaines.
Jean-Philippe Mathieu le disait. Hein,
voilà, je m'en souviens très bien. Et puis c'est rageant pour lui, je pense, déjà, parce qu'il doit être conscient de ses performances. Et pour nous, parce qu'il a tellement à nous apporter que c'est vraiment dommage. Quoi.
Ouais, Mohamed Ali Chou, des fois en top, des fois en flop. Hein,
c'est à l'image irrégularité.
De sa carrière. Arthur, les top flops de ce soir avec d'un côté Djoumaba en top. Alors ça, pour le coup, ça arrivait souvent cette année, mais c'est vrai qu'il le mérite sur cette performance à Lille. Et puis Sofiane Diop qui va en reprendre une couche aussi.
Ouais, Djoumaba, pour changer un petit peu, pour englober toute l'arrière-garde défensive, on lui a beaucoup tapé dessus à juste titre sur ce qu'il a produit depuis le début de la saison. Là, ça fait ce match-là, même le match d'avant, je l'avais trouvé assez cohérent, on va dire. Il a sauvé quelques ballons chauds. Défensivement, il s'est aussi montré présent dans le domaine aérien. Donc voilà, je vais souligner sa performance et le gym aura besoin de toute l'arrière-garde défensive pour réussir cette opération maintien. Et à l'inverse, Sofiane Diop, c'est toujours le fantôme et c'est censé être le joueur qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Et il a complètement disparu depuis janvier, on en a déjà assez parlé. Mais je revois encore des pertes de balles en première période, dont une qui aurait pu déboucher, un ballon qui remet dans l'axe pied gauche, qui débouche sur une occasion lilloise, le ballon il est donné à personne. Et après voilà, il y a aussi des comportements, il faudrait être un peu plus au taquet, j'ai envie de dire, physiquement et dans l'intensité. Mais bon, le championnat n'est pas terminé, on peut peut-être espérer une bonne surprise de la part de Sofiane Diop.
Et pourquoi pas en Coupe de France d'ailleurs, mon cher Arthur. Transition toute trouvée pour le focus de Coupe Aiglon. On y va. Allez, focus spécial Coupe de France J-2 au déplacement à Strasbourg en demi-finale. OGC Nice n'est qu'à un match du Stade de France qui retrouverait 4 ans après la défaite contre le FC Nantes. Mais avant, il faudra passer l'obstacle alsacien. On l'a dit en début d'émission, le Racing déjà victorieux du gym il y a 2 semaines 3-1, qualifié en demi-finale de Conférence League après avoir giflé Mayence 4-0 et puis 8e en championnat. Messieurs, y a-t-il un coup à jouer pour OGC Nice ou le Racing vous semble trop fort pour les joueurs de Claude Puel? Oui, non, et puis après on développera ensuite. Luc, il y a un coup à jouer pour le GIP ou pas?
Non.
Nico?
Oui, il y a toujours un coup à jouer.
Il y a toujours un coup à jouer.
Il y a un coup à jouer, je pense.
On va commencer par vous, Arthur, on y va.
Non, je pense que c'est une demi-finale de coupe. Hein. Il faut finir complètement, j'ai envie de dire, mort sur le terrain. Il faut tout donner. On a vu des belles valeurs collectives de la part du gym ce week-end. Il faudra mettre les mêmes au minimum face à une équipe qui est capable de mettre beaucoup d'intensité. On l'a vu la semaine dernière en Coupe d'Europe contre Mayence. Ils ont retourné le match complètement et retourné Mayence. Ils ont fait tourner ce week-end, donc c'est focus complètement sur les demi-finales européennes et de Coupe de France côté Strasbourg. Je pense que si le gym arrive à résister un petit peu dans la première demi-heure, en première mi-temps, il y aura de toute façon des espaces. Et il y aura des coups à jouer et pourquoi pas essayer de marquer sur un contre ou de pourquoi pas pousser Strasbourg au tir au but.
Luc, pour vous c'est non?
Non, parce que c'est une équipe qui est vraiment en gestion. Je sais qu'ils n'ont pas fait un bon match contre Rennes ce week-end-là. Ils ont encaissé encore 3 buts.
Après, ils ont fait beaucoup tourner aussi. Hein.
Ils ont fait exactement, ouais. C'est pour ça. Ils ont fait beaucoup tourner. Ils savent que s'ils vont aller en Europe la saison prochaine, ce sera en gagnant la Coupe de France ou en gagnant le Conference League. Donc, ils sont dans une gestion. Ils se préparent probablement ce match depuis la victoire contre Mayence il y a 5-6 jours déjà. Donc, leur focus, c'est surtout ce match qui arrive. Et Magas, qui sera assez frais aussi pour ce match, je pense que ça va aider. Donc je pense que pour ça, il y a un énorme écart de qualité entre les deux équipes. Et ça va montrer dans ce match-là pour moi.
Il y a un coup à jouer quand même pour l'OGC Nice, Nico. Pourquoi il y a deux semaines seulement, le Gym se rendait à Strasbourg. Il perdait 3-1. Ça aurait pu faire 4-5-1. On en a parlé d'ailleurs sur ce plateau le lundi qui suivait. Pourquoi ça serait différent mercredi?
Parce que chaque match a sa propre histoire. Après, je suis.
C'est beau, c'est beau ce que vous dites.
Après, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit des deux côtés. C'est sur la saison en général, Strasbourg est largement au-dessus. Il y a beaucoup plus d'arguments que nous. Et on a de quoi aussi craindre cette équipe-là. Maintenant, sur ce qu'on a montré aussi samedi soir, on a de quoi être costaud défensivement. Et puis, comment ne pas y croire à 72 heures d'une potentielle finale de Coupe de France? On est obligé d'y croire. Si on n'y croit pas, personne ne va y croire pour nous, parce que je pense que tout le monde nous annonce perdant. Donc il faut y aller le couteau entre les dents, en ayant un peu plus de confiance, exploiter les moindres failles de cette équipe, dans cette belle équipe de Strasbourg, parce qu'elle en a aussi. Et puis voilà, et puis tout donner, on n'aura pas de regrets.
C'est quoi le scénario? C'est 0-0, tir au but?
Le scénario, c'est 0-0 et costaud et un but de Kyle Boudache à la 90e.
Et la pression, c'est vraiment sur Strasbourg. Parce que eux, c'est pas comme s'ils jouent leur saison, mais ils jouent leur saison sur 3-4 matchs. Ce match contre Nice, une éventuelle finale contre qui que ce soit, et les deux matchs en demi-finale de Europa Conference et une éventuelle finale aussi. Donc, beaucoup plus de pression pour Strasbourg que
pour Nice. Et ça peut aussi jouer pour nous, puisque
c'est bon pour Nice.
Je trouve que c'est la pire chose à faire, en tout cas.
Ils enchaînent les matchs.
Ils enchaînent les matchs, et puis tout miser sur un ou deux matchs, c'est le meilleur moyen de passer à côté et de se faire submerger par les émotions.
Ouais, puis ils n'ont pas fait un tour d'avant, ils n'ont pas été si brillants que ça non plus. Hein.
Bon, c'était contre Reims,
chaque match a sa vérité, on va reprendre la formule. Mais c'est vrai que pour moi, le Gym a quelque chose à faire, et il faut en tout cas jouer sa chance à fond.
Avec un 3-5-2, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Claude Puel, on s'en souvient, au tour précédent contre Lorient, avait tenté un improbable 4-2-3-1 ambitieux face à Strasbourg, au match retour face à Strasbourg. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat. 3-5-2, on ferme la boutique. Bus.
Là, il faut garder cette ossature, offrir de la continuité aussi aux joueurs qui sont en train de trouver des repères. Ils en ont beaucoup manqué cette saison. Là, ils sont en train d'en retrouver. Donc, les laisser dans ce schéma-là. La seule interrogation que j'ai, c'est sur le poste de gardien de but. Est-ce qu'il va donner de la continuité à Yevan Diouf qui monte en puissance, ou est-ce qu'il va continuer à être Maxime Dupé dans les buts? Donc ça va être intéressant de voir ça. Et ensuite, on verra bien ce qui se passera.
Et si on va finir par un pronostic de rigueur, Strasbourg-Nice? Allez, Luc, on se mouille.
2-0 pour Strasbourg.
2-0 pour Strasbourg. Ah là, vraiment, vous y croyez pas du tout, au passage en finale de Nice. Nico?
Un partout, victoire au tir au but.
J'avais le même pronostic. Alors on va dire la même chose.
On va dire la même chose. Très bien, on enregistrera pour les Copéglons à venir. Avant de se quitter, messieurs, on s'intéresse quand même au classement de cette Ligue 1 pour voir que le Paris Saint-Germain est toujours en tête à une longueur maintenant du Racing Club de Lens, néanmoins toujours avec un match de moins. Ça se bouscule à la troisième place avec 5 équipes qui se tiennent en 4 points. Pour l'instant, c'est Lille qui est toujours troisième. On va passer à la deuxième partie de ce classement avec l'OGC Nice englué dans la deuxième partie de tableau, toujours à la 15e place avec 29 points, 4 de plus que le barragiste Auxerrois. Nantes et Metz ferment la marche. Leur sort paraît quasiment acté en Ligue 2 la saison prochaine. Dernier mot, vous voulez vous faire parvenir ce soir sur BFM Nice Côte d'Azur sur le don de 10 000 du fonds de dotation de l'OGC Nice. 4 chèques de 2 500 € ont été distribués la semaine dernière au pâté Lingostière, à des associations locales qui viennent en aide aux enfants malades. 200 personnes issues des associations étaient présentes. On va citer le nom d'ailleurs de ces associations: Petit Cœur de Beurre, l'Alpha de Victor, Epikid ou encore Sacha Jen Espoir. Plus d'informations sur la page Facebook du fonds de dotation de l'OGC Nice. Un tout petit mot, Nico.
Je voulais juste faire un gros bisou à ma maman que j'aime très fort.
C'est
son anniversaire. Donc
comment
gros
elle
bisou.
S'appelle?
Valérie.
Eh ben, on embrasse très fort.
Merci beaucoup.
Valérie, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été en ma compagnie pour Copéglon. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, à la même heure, à 19h. D'ici là, passez une très belle semaine.